Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aujourd'hui à cette soirée consacrée à la littérature romande. Celle-ci est particulièrement mise à l'honneur cette saison au Club 44. Il y a peu, nous avons exploré la singularité de l'écriture de l'auteur chaudefonnier Yves Vellan. Aujourd'hui, notre invitée Claire Jacquier mettra la lumière sur un trait saillant de la littérature romande. Spécialiste reconnue et renommée, vous nous donnerez une conférence intitulée « Le récit d'enfance en Suisse romande, un genre fécond ». Merci de votre présence. Grand merci aussi à l'Université de Neuchâtel, notre partenaire, représenté ici par Maud Dubois, qui se donnera la parole juste après. Et merci aussi à la Société de lecture avec qui nous collaborons pour cet événement également. Une lecture d'extrait par le magnifique Jonathan Dubmani ponctuera l'exposé. Jonathan, amoureux des mots et des sons, est rappeur, slammer, performeur, poète sonore, comédien, musicien, tout cela à la fois et bien d'autres choses encore, assurément. Avant de laisser la parole à Maud Dubois, je me permets de vous rappeler les deux derniers événements avant la fin d'année. Ce samedi à 18h15, nous nous retrouvons déjà Claire Marin, celle que l'on appelle la philosophe de l'intime, dialoguera à notre tribune avec Manuela Salvi. Elle renoue avec la philosophie des origines, celle qui voulait donner des clés pour comprendre le monde, enfin la vie plutôt, peut-être le monde, mais dans ce cas-là, c'est plutôt la vie et comment mieux vivre. C'est sans doute pourquoi ces livres rencontrent des succès fulgurants en librairie. Cette rencontre prolongera l'exposition de Guillaume Perret, Vernis ce même jour à 17h, vous pouvez déjà guigner les photos ce soir, qui lui aussi, par ses images, s'interroge sur nos modes d'existence. Et mardi 12 décembre, dernier événement, Jean-Pierre Dantine, l'ancien vice-président de la Banque nationale, se demandera comment repenser l'économie pour qu'elle assure la viabilité du système à long terme. Nous vous offrirons avec joie un pot de Noël à l'issue de la conférence. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. Je vais laisser la parole à Maud Dubois. Maud Dubois, vous êtes professeure à l'Université de Neuchâtel, à l'Institut de langue et civilisation française et membre aussi de la Fondation Guy de Portales, dont il sera question ce soir. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son récit autobiographique Marin d'eau douce ainsi que d'autres livres d'auteurs et d'auteurs dont il sera question ce soir sur le stand de la Méridienne. Merci Agathe pour ce beau petit panel. Et ben voilà, je vous laisse la parole pour nous raconter l'origine de la soirée et vous introduire notre invité. Et merci de votre présence.
Merci. Là. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ici ce soir pour entendre parler de littérature. J'aimerais tout d'abord remercier Marie-Léa et le Club 44 d'accueillir la conférence de ce soir, qui est donc le fruit d'une collaboration entre cette institution, la Société de lecture de Genève et l'Institut de langue et civilisation française de l'Université de Neuchâtel où je travaille. Merci ensuite à Claire Jacquier d'avoir accepté de préparer cette conférence qui est en quelque sorte une conférence de commande. En effet, avec d'autres professeurs de l'Université de Neuchâtel et Lausanne, je fais partie du comité de la Fondation Guy de Portales, écrivain français d'origine suisse ayant été actif dans la première moitié du XXe siècle. Et dans le cadre de cette fondation, nous essayons de faire vivre l'œuvre de Portales, qui, comme un certain nombre d'autres auteurs de cette époque, n'est plus vraiment le centre de l'attention aujourd'hui. Alors l'idée de départ de cette conférence était de réfléchir au phénomène du roman autobiographique en Suisse romande et à travers le temps, en comparant deux romans du début du XXe siècle, dont Marin d'eau douce, récit d'enfance publié par Guy de Portales en 1919, et de comparer ces deux romans avec deux romans plus contemporains, et cela pour voir comment on met sa vie en récit à un siècle d'écart. Donc début du XXe siècle, début du XXIe siècle. Lorsque j'ai contacté Claire Jacquier pour lui proposer ce mandat, elle a trouvé ce cadre un peu contraignant et elle a souhaité l'ouvrir à un plus grand corpus de textes. Et au cours de son travail, elle en est par ailleurs arrivée à se centrer plus spécifiquement sur des récits qui retracent l'enfance des auteurs. Pour avoir déjà entendu la conférence qu'elle a donnée jeudi passé à la Société de lecture de Genève, je peux déjà vous dire que cet élargissement et ce recentrement s'avèrent être une approche vraiment féconde, et c'est une très bonne chose qu'elle n'ait pas accepté mon idée, mon concept clé en main, et qu'elle soit partie dans cette direction. Donc maintenant je vais présenter en quelques mots Claire Jacquier pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc elle est professeure émérite de l'université de Neuchâtel, où elle a été professeure ordinaire depuis le milieu des années 90 jusqu'à sa retraite il y a quelques années. Les récits d'enfance ne faisaient pas partie jusqu'à présent de ses domaines de recherche, mais la littérature romande, oui. Depuis sa thèse de doctorat sur l'œuvre de Gustave Roux, publiée en 1987 sous le titre « Gustave Roux et la tentation du romantisme », jusqu'à la publication toute récente des œuvres complètes de Gustave Roux en 2022. Mais Claire Jacquier, je vous rassure, n'est pas monomaniaque, et entre les deux, elle a publié plusieurs ouvrages et quantités d'articles sur d'autres auteurs et sujets touchant la littérature romande. Elle a notamment fait paraître en 2005 un ouvrage intitulé « La sensibilité dans la Suisse des Lumières, entre physiologie et morale, une qualité opportuniste », qui croise son deuxième grand domaine de recherche, à savoir la littérature des Lumières, domaine dans lequel elle a également beaucoup publié. Dans L'erreur des désirs, roman sensible au XVIIIe siècle, paru en 1998, ou dans l'ouvrage plus récent intitulé « Par-delà le régionalisme, roman contemporain et partage des lieux », publié en 2019, elle aborde des grands corpus de textes avec un esprit synthétique et analytique qui non seulement forcent l'admiration, mais permettent de faire émerger des phénomènes significatifs en inscrivant les œuvres littéraires dans un cadre plus large, avec une vraie plus-value interprétative. C'est pour cette raison que je me suis tout naturellement tournée vers elle pour développer une réflexion sur la thématique des romans à composante autobiographique en Suisse romande. Alors, pourquoi pas, dans un avenir proche ou lointain, un ouvrage de Claire Jacquier sur les récits d'enfance, même si je sais qu'elle est déjà fort occupée avec d'autres recherches. Il y a en tout cas de la matière. Et quoi qu'il en soit, un immense merci très chaleureux, chère Claire, d'avoir travaillé sur ce sujet pour préparer les deux conférences de cet automne. Je remercie également Jonathan Dumani d'avoir accepté d'être présent ce soir pour lire les extraits de textes qui ont été sélectionnés par Claire Jacquier et que vous entendrez après la conférence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Maud de cette aimable présentation, merci au club de m'accueillir. J'étais en effet très surprise de la proposition de Maud Dubois de parler de Pourtalès, de récits d'enfance, etc. En effet, c'est un sujet sur lequel je n'ai jamais travaillé, mais finalement la commande a été fertile parce que nous avons tous été enfant une fois, et le sujet en effet m'a passionnée, et je me suis un peu engouffrée dans cette brèche en partant de Pourtalès et en descendant le cours du XXe siècle. Vous avez sous les yeux un corpus large dont je ne parlerai évidemment pas exhaustivement. Les quatre titres en gras seront évoqués et même j'en parlerai assez succinctement. Mais mon idée c'était de vous donner à titre indicatif trois corpus. Le corpus de récits d'enfance au XXe siècle, hein, de Guy de Pourtalès à Mézeau en 99, le corpus français canonique du XXe siècle, là je pourrais le multiplier par 10 ou par 20, hein, les récits d'enfance importants du XXe siècle, il y en a beaucoup, là je vous ai donné vraiment les plus importants, et ceux au gré desquels une transformation du genre a eu lieu, par exemple, depuis du côté de chez Swann, hein, on a découvert la mémoire involontaire, hein, et ça devient quelque chose d'extrêmement important dans le récit d'enfance, évidemment. Et puis, je vous ai donné vraiment aussi, seulement à titre indicatif, un corpus roman du XXIe siècle, vous voyez quand même une douzaine de titres. Encore une fois, je pourrais le multiplier par 20 si je prenais le corpus français, et c'est ça qui me surprend, c'est la croissance du genre depuis la moitié du XXe siècle à peu près. Ça ne fait que croître, le récit d'enfance, avec des variations qu'on verra. Alors, remarque préliminaire, il y a des différences subtiles et fines entre autobiographie, roman autobiographique, autofiction, roman de formation, roman de la vocation, etc. On sait, au XXe siècle, la porosité générique est un trait marquant de la littérature, c'est-à-dire que les genres n'ont pas de frontières, ou plutôt qu'ils les transgressent allègrement, et que les genres se mélangent entre eux. Donc je ne vais pas entrer dans une question de théorie des genres pour essayer de définir ce que c'est le récit d'enfance. Bon, ça me prendrait une heure si je voulais aller dans les détails. Je me contenterai d'une définition très simple, très connue, qui est celle que Philippe le Jeune, le pape de l'autobiographie, comme on l'appelle, a donnée de l'autobiographie, et puis je la modulerai un petit peu pour tomber sur une définition, je dirais, un peu cavalière, mais qui sera suffisante pour mon propos, pour définir le récit d'enfance. Alors, voilà la définition de l'autobiographie de Le Jeune. Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Voilà. C'est très simple, ça dit tout. Alors, récit d'enfance, il faut juste limiter l'empan à une portion de la vie individuelle, évidemment, et surtout savoir que le récit d'enfance recourt certes à des souvenirs personnels, mais aussi à des souvenirs empruntés, hérités, donc déformés, aliénés, etc., à des hypothèses ou à de la fiction. Voilà. Je me contenterai donc de cette définition, dans la mesure surtout où la question qui m'a intéressée lorsque j'ai accepté la commande de Maud Dubois, en fait, ce n'est pas une question de genre ou finalement complètement littéraire, mais c'est une question plutôt anthropologique et culturelle. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que les récits d'enfance, et en particulier la croissance continue du récit d'enfance depuis 1950, 60 et 80 à peu près, depuis tout ce temps. Qu'est-ce que cela nous dit de notre société contemporaine ? Depuis plus d'un demi-siècle, le genre ne fait que croître et finalement prendre beaucoup de place dans ce qui était le genre classique de l'autobiographie. Donc ce sont ces questions qui vont guider mon intérêt. Et ces questions, je me les suis posées en particulier constamment en lisant le livre de mon collègue de Neuchâtel, Jean-Pierre Van Elsland, qui s'intitule « L'âge des enfants, 16e-17e siècle », paru chez Hydrault en 2019. Que dit Jean-Pierre Van Elsland ? Au XVIe et au XVIIe siècle, on trouve de nombreuses figures d'enfants dans divers genres littéraires, mais pas de récits d'enfance. Des enfants, mais pas d'enfance. On est, XVIe-XVIIe siècle, dans la société d'ordre d'Ancien Régime, société verticale, très hiérarchisée, où l'autorité s'exerce de manière verticale, justement, et où l'enfance est considérée comme un âge de la vie très provisoire, sur lequel s'exerce l'autorité des parents, et où l'enfance, au fond, n'est pas digne d'attention, parce que l'enfant est considéré comme imparfait, malléable, particulièrement marqué par le péché originel. Donc l'enfance, ce n'est pas intéressant. J'en veux pour preuve des mémoires quand même assez importants de cette période, écrits en fait au tout début du XVIIIe siècle, mais publiés seulement en 1839, donc posthume. Ce sont les mémoires du duc de Saint-Simon, immense pavé, sont ses mémoires. Alors, comment est-ce qu'il liquide son enfance ? Je le cite, c'est au tout début des mémoires. « Je pris donc ma résolution de me tirer de l'enfance et je supprime les ruses dont je me servis pour y réussir. » Alors, il utilise le verbe « se tirer de », évidemment, « échapper à », dans un sens qui ressemble presque au sens familier qu'on donne aujourd'hui, « oh, je vais me tirer de là ». C'est vraiment quasiment dans ce sens-là. Sa vraie naissance au duc de Saint-Simon commence au moment où il sort de l'enfance, où il se tire de ce temps de vulnérabilité et de dépendance, de sorte de terra incognita qui ne l'intéresse pas. Du coup, narrer son enfance, ça veut dire récit rétrospectif, on se penche vers le passé, obligeant à se tourner, à se détourner de l'âge adulte, faire l'effort de se rappeler du passé. C'est une entreprise que la littérature va découvrir, pas entièrement, parce qu'il y a, par exemple, dans les Confessions de Saint-Augustin, il y a quelques pages sur l'enfance, il y en a ici ou là, mais enfin, l'entreprise même de se pencher sur son passé, elle va advenir avec Rousseau. Les Confessions, 1782-1789, publiées de manière posthume. L'attitude qui consiste à ne pas s'intéresser, à vouloir se tirer de l'enfance, hein, elle est représentée encore un petit peu au début du XIXe siècle, notamment chez un auteur, ça ne vous étonnera pas, chez Balzac, qui, dans un esprit encore très marqué par la morale d'Ancien Régime, écrit ceci dans un roman de la comédie humaine qui s'appelle César Birotteau. César Birotteau, c'est l'histoire, si vous ne l'avez pas lu, d'un parfumeur. C'est grandeur et décadence du parfumeur César Birotteau. Voilà, bon, sujet très balzacien. Or, le narrateur balzacien, qui ne se prive jamais, comme vous le savez, de donner son avis, juge César Birotteau, en particulier au moment de sa décadence. Et voilà ce qu'il dit. Je lis la phrase un peu lentement, elle est très balzacienne, mais elle est très significative de l'attitude de Balzac à l'égard de ce que signifie regarder derrière soi pour comprendre son enfance. « Oublier est le grand secret des existences fortes et créatrices. » Oublier à la manière de la nature qui ne se connaît point de passé, qui recommence à toute heure les mystères de ses infatigables enfantements. Les existences faibles, comme étaient celles de Birotteau, vivent dans les douleurs au lieu de les changer en apophtègmes d'expérience. Elles s'en saturent et s'usent en rétrogradant chaque jour dans les malheurs consommés. Donc, oublier versus se plonger dans le ressassement de ses malheurs. Et Balzac, on le voit bien, préfère nettement l'attitude qui consiste à oublier. C'est ce qu'on faisait en effet au XVIe, au XVIIe siècle, et c'est ce qu'on ne fait plus à partir de Rousseau. En effet, au XVIe, XVIIe, la littérature va représenter des enfants, de nombreux enfants, dans des genres qui ne sont pas consacrés à l'enfant. Donc, enfin, il n'y a pas de récit d'enfance, mais il y a toutes sortes de genres, comédies, fables, etc., que Jean-Pierre Van Esland traverse, dans lesquels figurent des enfants dynamiques, des enfants différenciés. Donc, ce n'est pas le type de l'enfant, c'est des véritables enfants, des figures d'enfants, mais qui sont tous acteurs d'une histoire en marche. C'est-à-dire qu'ils sont placés au cœur du processus historique. Donc, au fond, ils sont présents dans les textes parce qu'ils représentent ou parce qu'ils symbolisent. Je donne deux exemples. L'exemple que donne Jean-Pierre Van Helsing tout au début de son livre, l'enfant est particulièrement chargé de symboliser la splendeur et l'énergie d'un règne à venir au moment où on couronne un roi. Il y a un enfant qui est là, en quelque sorte, dans le décorum, parce qu'il symbolise ce que va devenir ce règne. Ou, si vous pensez à Rabelais, Pantagruel ou Gargantua enfant incarne l'aspiration à un avenir ouvert et dynamique promis par l'humanisme. Ils sont, en quelque sorte, les symboles, ils symbolisent l'humanisme que Rabelais, par ailleurs, professe. Alors, à partir de Rousseau et jusqu'à nos jours, là, il n'y a pas de nouvelle conscience, je dirais, aussi forte que celle que marquent les confessions de Rousseau, de ce point de vue-là. L'enfance, par elle-même, va devenir intéressante. Et elle appelle des mesures de protection qui vont maintenir les enfants à l'écart de l'histoire. On ne va plus trouver, comme dans les textes dont parle Jean-Pierre Van Helsing, des enfants qui, au fond, représentent un état de l'histoire ou de l'époque présente. Ils ne représentent plus, en quelque sorte, le sens historique d'une époque, mais ils se représentent eux-mêmes, ils représentent l'enfance, et ce n'est pas rien, puisqu'on l'avait singulièrement ignoré jusque-là. Si je prends maintenant le traité d'éducation de Rousseau, Émile ou de l'éducation, 1762, l'enfant, dans ce traité, n'est pas porteur d'une espérance collective. Il est simplement le représentant ou le porteur de sa nature même, c'est-à-dire la bonté originelle, ce que Rousseau veut prouver. L'homme est bon, donc l'enfant est éminemment bon. Donc, le précepteur d'Émile va faire vivre son élève jusqu'à 12 ans à l'écart du monde. Pour préserver son innocence, il le marginalise pour son bien, afin qu'il ne soit pas aliéné jusqu'à 12 ans par la société qui risquerait de le corrompre. Donc le développement jusqu'à nos jours de la compréhension de l'enfance part de là, part de cette idée. L'enfance est un âge de la vie spécifique, porteur de valeurs, hein, innocence, spontanéité, une certaine autonomie, hein, et à ce titre, elle a besoin d'être protégée, en tout cas, selon Rousseau, jusqu'à 12 ans. Donc, cette idée, elle a un impact énorme sur la littérature du 19e siècle, qui est bourrée d'enfants. Hein, je crois que vous le savez, les grands romans du 19e siècle français sont pleins de personnages d'enfants, quelquefois victimes d'injustices, etc., qui s'en sortent ou qui ne s'en sortent pas. Mais enfin, c'est une figure qui est extrêmement importante. Le récit d'enfance, en tant que tel, cependant, ne naît pas vraiment au 19e siècle. Il naît en fait à la toute fin du 19e siècle, 1880-90 à peu près, ce que je donne dans mon corpus dit canonique, hein, la deuxième liste, je donne Jules Vallès et Jules Renard, je pourrais en donner d'autres, Ernest Renan a aussi donné des souvenirs d'enfance à peu près dans les mêmes années. Donc le récit d'enfance naît, hein, en France dans les dernières années du 19e. Jusque-là, l'enfance, ben, faisait partie du projet autobiographique. Hein, dans les Confessions de Rousseau, ben, l'enfance, c'est simplement les premiers livres. Dans Henri Brûlard, de Stendhal également. Dans Les Mémoires d'outre-tombe, de Chateaubriand également. C'est le début, puis ensuite on continue. Ben, fin du 19e, on décide de ne pas continuer. C'est-à-dire d'arrêter, en quelque sorte, le récit autobiographique à l'enfance et d'en faire un livre à part. Hein, c'est une mutation quand même assez importante. Alors, pourquoi ? Alors, certes, c'est la suite, je dirais, Rousseau avait préparé cela, certainement, mais il y a un facteur historique, culturel et historique quand même décisif. Je n'arrive pas à mesurer exactement le lien entre les deux, mais il est quand même assez frappant. C'est, fin du 19e siècle, le moment où les sciences humaines constituent l'enfance en objet de savoir. Hein ? C'est le moment où des chaires de psychologie du développement, en France, en Suisse aussi, commencent à naître. La pédagogie comme science advient, et bien sûr, la psychanalyse, qui va s'intéresser à l'enfance et souligner la place cruciale qu'elle a dans la construction de la personnalité. Donc, ce sont deux phénomènes parallèles. Encore une fois, est-ce que... quels liens ont eu lieu, c'est difficile à dire. C'est facile à dire pour la psychanalyse, qui a influencé un nombre considérable de récits d'enfance. Et je crois que si vous lisez la liste du milieu, encore une fois, des Français, je crois qu'à peu près tous les auteurs connaissent la psychanalyse, l'ont lu, l'ont pratiqué, voire écrivent leur récit d'enfance après une cure psychanalytique. C'est le cas de Dubrovski, c'est le cas de Michel Léris, par exemple. Donc ça, c'est quand même assez décisif dans le monde francophone, mais aussi dans le monde européen. La psychanalyse va, en quelque sorte, accompagner la naissance et la croissance du récit d'enfance. Un auteur dont je n'aurais pas cru qu'il eût été marqué par la psychanalyse, et je l'ai découvert grâce à Daniel Maggetti, qui a édité « Découverte du monde » de Ramu dans les œuvres complètes, eh bien oui. Il montre que Ramu, à l'évidence, Découverte du monde, c'est un récit de la vocation, c'est un récit autobiographique, hein, qui paraît en 1939, mais à l'évidence, la manière dont Ramu raconte certains éléments de sa petite enfance, ça ne peut pas venir d'ailleurs que de la psychanalyse, c'est tout à fait clair. C'est un bain dans lequel, hein, depuis 1920, en tout cas pour la France, tout le monde baigne. Hein. Donc c'est important. Alors, j'en viens à la Suisse romande. Est-ce que la Suisse romande a pu être un terreau fertile ou particulièrement fertile pour le récit d'enfance ? Alors vous me direz, bien sûr, Rousseau est genevois. Hein. Les sciences de l'éducation, la pédagogie, la psychologie du développement sont très développées à Genève par Jean Piaget, bon, qui est neuchâtelois mais qui a été professeur à Genève, par Édouard Claparède qui fonde l'Institut Jean-Jacques Rousseau aussi au début du XXe siècle. Donc le terrain, il est évidemment fertile en Suisse romande. Hein. Mais je dirais, le phénomène en tout cas de la psychanalyse et de l'importance de Freud est tel dans toute l'Europe que c'est le contexte général, qui est le contexte européen, qui est favorable à l'émergence du récit d'enfance. En tout cas, on remarque qu'en France, ce genre va être renouvelé de manière décisive à plusieurs reprises. Hein. Il est renouvelé par Proust hein, dans le premier volume de la recherche du côté de chez Swann, par les souvenirs inconscients. Il est renouvelé par l'invention de l'autofiction par Dubrovsky en 1977. Il est renouvelé cette fois par un critique qui est Dominique Viard, qui nomme ce qu'il appelle le récit de filiation, dont il voit, j'en parlerai par la suite, hein, des représentations nombreuses hein, à partir des années 80. Il est renouvelé aussi parce qu'on a appelé, depuis Vie minuscule de Pierre Michon, l'autobiographie indirecte. Donc le récit d'enfance, l'autobiographie, enfin, évolue en France de manière évidente. Alors, y a-t-il une spécificité du récit d'enfance roman au XXe siècle? Au fond, je dirais non. Les modèles circulent. Il est évident que les auteurs romans lisent les auteurs canoniques qui paraissent. Hein, tout le monde a lu les auteurs romans ont lu Proust, certains ont lu Léris, beaucoup ont lu Les mots de Sartre, évidemment, etc. L'inverse n'est pas toujours vrai. Hein, les Français n'ont pas forcément lu les grands récits d'enfance romans du XXe siècle. Enfin, on le sait. Cependant, différence quand même significative. Circonstances historiques qui distinguent la Suisse romande de la France. La Suisse romande n'a pas participé, enfin, elle a participé à sa manière, mais pas directement, au point de connaître cette figure majeure du récit d'enfance français, qui est l'orphelin de guerre, c'est-à-dire l'orphelin de père. Les deux conflits mondiaux, le premier en particulier, mais le second aussi, génèrent un nombre d'orphelins de guerre, hein, d'orphelins de père, extrêmement considérable, dont beaucoup sont écrivains. Pas tous font des récits d'enfance, hein, ça peut être dans le roman, etc. J'en cite juste quelques-uns, mais il y en aurait des kyrielles. Le père de Claude Simon est mort en 1914, au tout début du premier conflit mondial. Le père de Georges Perec est mort en 1940 à la Légion étrangère. Sa mort elle-même est morte à Auschwitz en 1943. Le grand-père paternel de Pierre Bergougnou, et là c'est intéressant de voir que ce n'est pas le père, mais c'est le grand-père de Bergougnou, il le dit dans un récit qui s'appelle « L'orphelin ». Donc son grand-père est mort au cours de la Première Guerre. Dans les champs d'honneur de Jean Rouault, on trouve aussi des ascendants de Jean Rouault qui sont morts à la guerre. Et on remarque qu'être orphelin de guerre, ça se joue sur deux ou trois générations. Hein, vous êtes d'abord orphelin, mais ensuite il y a le petit-fils, puis l'arrière-petit-fils. Hein, jusqu'au début du XXe siècle, vous avez la troisième génération qui pense encore à l'ancêtre mort à la Première ou à la Deuxième Guerre. Hein. Donc ça, c'est un phénomène qui est massif en France. Je pourrais faire une liste à part hein, d'orphelins de guerre dans les récits, soit auteurs, soit personnages. Et cette perte du père, c'est un des traits qui va conduire le critique Dominique Viard à créer cette notion de récit de filiation qui est un peu plus large que le récit d'enfance, qui comprend l'enfance mais qui l'étend un peu, et qui montre les caractéristiques suivantes. Avoir perdu son père, ça induit des failles dans la transmission intellectuelle, dans la transmission morale, dans la transmission matérielle souvent aussi. Ça induit très souvent un sentiment de dette ou de culpabilité. Au lieu de pouvoir faire un récit d'enfance linéaire, on a affaire à une composition de fragments d'enfance. Des fragments qu'on vous a racontés, donc qui sont suspects d'inauthenticité. Il y a des secrets de famille, il y a ce qu'on appelle le secret des origines, parce que très souvent, autour de la mort d'un père à la guerre, il y a d'autres secrets. On ne sait pas comment il est mort, on ne sait pas où le mort a été enterré, on ne sait pas comment les papiers sont revenus à la famille. Enfin, il y a très souvent d'autres secrets qui se greffent là autour. On appelle ça aussi très souvent le silence des pères. Des souvenirs douteux, etc., qui génèrent de la part de l'orphelin, ou du fils de l'orphelin, ou du petit-fils de l'orphelin, une exploration de l'ascendance, souvent sous forme d'enquête généalogique. Donc le récit de filiation, c'est l'ensemble de ces caractéristiques hein, qui vont constituer quasiment un genre en soi. Ben, ça, en Suisse romande, on n'en a pas. en tout cas pas avec la figure du père mort à la guerre. Il peut y avoir d'autres, les pères meurent aussi dans la littérature romande, hein, Chessé perd son père à 22 ans, Roland Jacquard perd son père et son grand-père par suicide, Anne Cuneo perd son père, bon, elle c'est pour des circonstances liées à la guerre puisqu'elle est italienne, Frédéric Pajac a perdu son père jeune, etc. Bon, évidemment il y a des pères morts dans la littérature romande, mais je dirais ce corpus considérable d'orphelins de guerre, on ne l'a pas en Suisse romande et on n'a pas donc ce phénomène qui se prolonge jusqu'au début des années, enfin jusqu'au 21e siècle. Hein. Je suis tombée, là, en faisant des recherches, sur un texte que je ne connaissais pas, je ne sais pas s'il a eu du succès ou pas, mais enfin, que je ne connaissais pas, d'un auteur qui s'appelle François Vigouroux, qui écrit en 2001 hein, un texte qui a trait à un mort de la. Est-ce que c'est de la deuxième ou de la première guerre? Ah ben là, tout à coup, j'ai oublié. Enfin, l'une ou l'autre des guerres. Et le titre est le suivant. Grand-père décédé, stop, viens en uniforme. J'adore ce titre. Hein. Grand-père décédé, stop, viens en uniforme. Donc, imitation du style télégraphique, pour bien dire, en fait, ce titre dit tout. Il dit combien le silence des pères corsette la famille. Hein. On ne peut pas parler autrement qu'en style télégraphique, d'une certaine manière. Ou si on veut le faire, ben, il faut s'y prendre. Il faut remuer les silences, en quelque sorte. Hein. Donc, cette logique-là, ben, on ne l'a pas. En Suisse romande. En revanche, me suis-je dit, mais est-ce qu'on n'a pas quelque chose à la place ? Ou autrement ? Hein ? Eh bien oui, il y a quelque chose, pas à la place, c'est simplement une différence historique, c'est que la mort de la mère constitue un motif très présent dans la littérature romande. Alors, pourquoi ? Je vous laisse, je vous retourne la question, je ne vais pas essayer d'y répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que ces morts de mère renvoient, quelquefois explicitement, quelquefois pas, à l'origine forte que représentent les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Je rappelle ce passage qui figure au début du livre premier, dont vous vous souvenez quand même, mais qui est d'un tel pathos où toute l'éloquence de Rousseau surgit et avec une efficacité redoutable, je le lis. Je naquis infirme et malade. Je coûtai la vie à ma mère et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Je n'ai pas su comment mon père supporta cette perte, mais je sais qu'il ne s'en consola jamais. Il croyait la revoir en moi sans pouvoir oublier que je la lui avais ôtée. Voilà. Ça ne s'oublie pas facilement quand on est soi-même orphelin de mère, cette phrase-là. Et de fait, hein, après Rousseau, on compte nombre d'orphelins de mère qui ont pris la plume pour parler de leur enfance ou la narrer à partir ou sur fond de cette perte. Alors, je cite une petite liste. Amiel, sa mère meurt alors qu'il a 11 ans. Benjamin Constant, sa mère meurt à sa naissance. Guy de Pourtalès, orphelin de mère à 7 ans. Catherine Colomb, orpheline de mère à 5 ans. Monique Saint-Hélier, orpheline de mère à 4 ans. Jérôme Maizot, orphelin de mère à 9 ans. Donc, tous ces auteurs n'ont pas écrit de récits d'enfance, certains d'entre eux, j'en parlerai, mais pas tous, mais tous, d'une manière ou d'une autre, dans d'autres genres, souvent dans le roman, ont parlé de la mort de leur mère. Et encore une fois, la liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, évidemment, ce n'est pas une filiation psychologique qu'on peut dessiner là. Hein, ils ne sont pas passés le mot, en quelque sorte, tous ces orphelins de mère. Mais ce que je voudrais souligner, c'est la prégnance d'un modèle littéraire qui est d'origine rousseauiste indéniablement. On se souvient, je dirais, de cette phrase initiale des confessions. Et l'orphelin de mère rousseauiste, il a une sorte de profil particulier qu'on va retrouver, pas seulement d'ailleurs dans les récits d'enfance, mais aussi dans les romans, dont l'auteur est un ou une orphelin de mère. Et ce profil particulier, c'est celui-ci. Ce sont des fils de la mère, sensibles et rêveurs, ce qui n'exclut pas d'ailleurs une formidable énergie pour certains, celle de Rousseau particulièrement. Incapables d'oublier la blessure première, ou le trauma premier, prédisposés à la mélancolie, voire destinés à une sorte de deuil infini. Donc voilà, j'aimerais faire une petite déclinaison de ces orphelins de mer dans la littérature romande. Alors là, je remplirai le contrat que Maud m'avait donné, parce que je parlerai du premier, qui est Marin d'eau douce, 1918-19, tout début du siècle, et ensuite, fin du siècle, 1999, le récit de Jérôme Mézeau, orphelin de mer, lui également. Alors, je commence par Pourtalès. Bon, deux, trois mots de rappel. Neuchâtelois par son père, Je ne vois par sa mère, une famille marseillaise. Guy de Pourtalès appartient à une grande famille protestante, européenne et cosmopolite, arrivée en Suisse au XVIIIe siècle suite à la révocation de l'édit de Nantes. Guy de Pourtalès a 7 ans quand sa mère meurt en couche en 1888. Mais curieusement, il en parle à peine dans son récit d'enfance, qu'il écrit entre 1912-1914 à peu près, et qu'il va publier en fait après la Première Guerre, parce qu'il s'engage, hein, il a au fond redemandé lui-même, comme il est d'origine française, il a redemandé sa nationalité française, ben, il se trouve engagé dans le conflit de la Première Guerre. Hein. Donc il fait la Première Guerre, et il va publier donc Marin d'eau douce juste après la Première Guerre, et il parle pas de sa mère. Comme si c'était rien. Il en parle. Il y a une phrase que je vais vous citer qui montre la distance très grande qu'il prend avec cette espèce de non-événement. Je cite. On m'avait dit que mon père était mort et ma mère, c'était encore plus lointain, au temps de Noël, dans une villa du Midi. Basta. Pas un mot de plus. Et de fait, Marin d'eau douce, c'est un récit qui porte. Non pas sur la petite enfance autour de 7 ans, puisqu'il a perdu sa mère à 7 ans, mais il commence à 12 ans. Hein, donc vraiment, balaye la première enfance. Alors le narrateur, bon, c'est Guy de Pourtalès, c'est complètement autobiographique, même s'il se donne le prénom de Jean. Donc il ne dit rien de sa petite enfance. Ensuite, il va publier en 1926, quelques années plus tard, son récit de jeunesse, qui s'appelle « Montclar ». Aussi complètement autobiographique, même s'il se donne un autre nom, enfin peu importe. Et là, Pourtalès se donne le même destin que Rousseau. Je cite, « Ma mère est morte en me donnant le jour. » Alors que ce n'est pas en donnant le jour à lui qu'elle est morte, hein, c'est donnant le jour à un petit frère ou une petite sœur qui est d'ailleurs mort ou morte, on ne sait pas, aussi. Donc tout à coup, il se rousseauise complètement, hein, dans Montclar. Autre élément intéressant, dans un manuscrit du roman qu'il a rendu célèbre, La pêche miraculeuse, qui paraît en 1937, figure un passage, cette fois pathétique et lyrique, que la version publiée ne va pas donner, mais qui existe, hein, qui existe dans les manuscrits. Et dans ce passage, le narrateur enfant, donc 7 ans, est conduit auprès de sa mère mourante qui lui dit, je cite, « Goodbye, Guy, be always good with papa ». En fait, sa mère lui parlait anglais, elle parlait anglais à ses enfants, c'était une Marseille de Genève, mais elle avait une ascendance anglaise forte, elle avait décidé de parler anglais à ses enfants. Suite du texte. « On nous expliqua à voix basse le lendemain matin » dans la joyeuse maison subitement remplie de fleurs, que ma mère était morte durant cette nuit. Une embolie l'emportait à 33 ans après ses sixièmes couches. Nous la vîmes sur son lit, blanche comme son oreiller, casquée de sa chevelure admirable et dormant dans les roses. Ça fait trembler, c'est lyrique, c'est pathétique, c'est voilà. Il change complètement de ton par rapport au nom, enfin la non-mention de Marin d'eau douce. Et il va reprendre ce passage et le développer considérablement dans ses mémoires, cette fois en 1940, les mémoires qui s'intitulent « Chaque mouche a son ombre », évoquant cette fois très nettement la tendresse qu'il vouait à sa mère et le fait qu'avec la mort de celle-ci, je cite, « le monde s'ouvrit pour nous à son plus grand mystère voilà. ». Si vous pensez à la pêche miraculeuse, la mort de la mère est aussi présente. Le début de la mort de la pêche miraculeuse, c'est une scène in medias res, donc on tombe dans une scène, on ne sait absolument pas de qui il s'agit. On est après un enterrement, c'est l'enterrement de la mère du héros, qui s'appelle dans ce roman Paul de Villars. C'est une scène sidérante par la brutalité du chagrin, brutalité muette en quelque sorte du chagrin, du veuf et des enfants. Paul de Villars et son frère, il y a d'autres enfants, mais on voit que c'est deux. Hein. Donc cette scène, elle est terrassante en quelque sorte, hein, par sa présence au début du roman, alors qu'on ne sait rien de personne. Hein. Et par ailleurs, dans ce roman, La pêche miraculeuse, pour Thalès, intitule un des chapitres La dernière Héloïse. Évocation évidemment de Julie ou la nouvelle Héloïse, roman de Rousseau 1761. Donc manière aussi de ramener Rousseau hein, à travers son roman. Donc voilà, si je reprends hein, les occurrences de la mention de la mer, il y a de la mort de la mer, il y a Marin d'eau douce, distance, Montclar, projection rousseauiste. Il y a le texte manuscrit non publié, et puis il y a la scène du début du roman. On a l'impression que pour Thalès a besoin de faire des variations sur la mort de sa mère, comme s'il devait s'y reprendre à plusieurs fois en circulant entre expérience vécue, fiction et modèle littéraire rousseauiste. Et je me suis aperçue qu'il n'est pas le seul. Hein. Beaucoup d'auteurs n'arrivent pas à faire leur récit d'enfance d'un coup. Ils doivent s'y reprendre à plusieurs fois. C'est le cas de Jérôme Mézeau, on le verra tout à l'heure. C'est le cas aussi d'une auteure que j'ai découverte aussi en faisant cette recherche, une auteure qui s'appelle Chantal Chavaf, qui a écrit un roman d'enfance absolument sidérant. Elle est morte en 1940 sous les bombes... Non, pas elle, sa mère est morte sous les bombes allemandes en 1940 et elle écrit un roman en 1974 qui s'appelle Le Manteau Noir et elle le réécrit entièrement en 2009 je crois sous un autre titre qui s'appelle Je suis née. Donc là aussi hein, on doit s'y reprendre à deux fois comme si on n'y arrivait jamais au fond il faut reprendre cette chose là qui est le récit de la mort de la mère en l'occurrence. Deux mots pour conclure sur pour Thalès. C'est un roman Marin d'eau douce, hein, c'est un poème de l'enfance et du lac, c'est un roman, un petit récit charmant qui se veut réaliste, classique par la langue, et plein de beaux souvenirs. Hein, les beaux souvenirs liés à la petite jeune adolescence de Jean, donc guide pour Thalès, vivant dans la grande maison au bord du lac Léman, propriété des grands-parents maternels à Jeantot. Lié aussi aux sorties sur le lac, etc. Et de fait, le narrateur dit au tout début du roman, comme les souvenirs d'enfance sont précis. Ça, vous ne l'entendrez plus jamais dans aucun récit d'enfance au XXe siècle. Ils sont jamais précis, les récits d'enfance. Hein. Ils sont au contraire brumeux, ou alors tellement précis qu'on se demande s'ils sont authentiques ou pas, s'ils sont originels ou pas, s'ils ne proviennent pas d'images qu'on a vues, de choses qu'on vous a racontées. Lui, non. Comme les souvenirs d'enfance sont précis. Hein. Donc, Marin d'eau douce, c'est comme s'il appartenait en fait à un siècle qui va s'arrêter là, avec la guerre, et un autre siècle va commencer, où ce qui va dominer, c'est la difficulté d'accéder à l'enfance et à sa vérité, ben, Proust, pour rien moins que l'expérience incroyable de la Madeleine pour récupérer l'enfance. C'est la méfiance à l'égard de ce que Nathalie Sarraute appelle dans Enfance les beaux souvenirs d'enfance. Hein, dans Enfance, si vous connaissez ce merveilleux récit d'enfance, chaque fois qu'il y a un beau souvenir, elle se dit « Oups, il faut que je m'arrête, il est sûrement faux hein, ». Elle appelle ça les beaux souvenirs d'enfance, il faut s'en méfier à tout prix. Ils sont inauthentiques ou faux. Le récit d'enfance du XXe, c'est des ruptures dans la transmission, c'est la tentative de récupérer des bribes et c'est surtout la quête de formes nouvelles. Marin d'eau douce, ce n'est pas une forme nouvelle, c'est un récit réaliste, linéaire d'ailleurs, chronologique, écrit dans une langue classique. Après, plus du tout. Tous les récits d'enfance, en tout cas ceux qui vont compter au XXe siècle, ils inventent leur forme. Précisément parce que c'est presque impossible. En fait, les pièges sont tels qu'il faut inventer une forme nouvelle. Donc, ce récit d'enfance parfaitement euphorique et confiant dans les pouvoirs de la littérature, hein, qu'est Marin d'eau douce, ben, on va pas le retrouver après coup. Et donc là, je passe à un autre orphelin de mer, donc fin du siècle, hein, Jérôme Mézeau, né écrivain valaisan, né en 1967. Alors, les circonstances qui sont à l'origine du récit qu'il publie, donc en 99, Morts ou vifs, Sa mère, atteinte d'un cancer, s'est suicidée en 1976, 2 ans après la mort accidentelle de son fils aîné. L'auteur, donc Jérôme Maizot, qui est le fils cadet, avait alors 9 ans. Morts ou vifs, paru en 1999, c'est son premier livre. Il y en a beaucoup d'autres après. Dans l'avant-propos, le narrateur définit l'intention qui préside à ce livre en ces termes. Couper court, nommer sans répit la bête immonde. Alors, la bête immonde, c'est la mort, mais c'est au fait davantage l'angoisse de la mort. Lui dire son fait, ajouter aux sombres phrases du destin un supplément qui lui résiste. Donc écrire, c'est en fait résister à la mort et à l'angoisse de la mort. Et de fait, Maizot exprime dans ce texte le vœu de tenir à distance le drame vécu par tous les moyens possibles, et en particulier, il fait quelque chose typique du récit d'enfance du XXe siècle, c'est qu'il va rechercher dans son ascendance d'autres morts disparues par accident ou par suicide. Puis il en trouve. Il retrouve une sorte de série, hein. il va dans les archives et puis il en retrouve. Pourquoi il va les rechercher? Parce qu'il s'agit surtout de ne pas perpétuer la série, de ne pas lui-même entrer dans la série. Hein, je cite, « Je refuse de reconduire le cycle, ici nommé pour y mettre fin, le terrasser. » Donc il va essayer de se rappeler sa mère, encore une fois il avait 9 ans, il était assez grand quand même quand elle est morte, mais il s'aperçoit que néanmoins il ne lui reste que des bribes. Il y a un chapitre du récit qui s'appelle Nanette, qui est le petit nom qu'on donnait à sa mère, qui est consacré à elle. Alors il y a des images mais isolées, il y a des mots de patois qui lui reviennent, hein. Et surtout il y a cette tentative qui est très impressionnante chez Maizot. C'est en quelque sorte d'arriver à dire l'expérience tétanisante qu'a été pour l'enfant, bon, d'abord la mère de son frère, ensuite 2 ans après la mort de sa mère, mais là dans Morts ou vifs il parle davantage de la mort de la mère, donc dire cette expérience tétanisante mais refuser le pathos, c'est-à-dire avoir une écriture aussi sobre voire brutale que possible pour en quelque sorte ne pas entrer dans le pathos, parce qu'entrer dans le pathos, ben, c'est adhérer, puis se mettre dans la série, puis finalement être le suivant sur la liste. Donc c'est très impressionnant cette espèce de tension qu'il arrive à créer dans la lecture qu'on entendra d'un texte de ce récit, vous l'entendrez très bien. Alors Maizot, il fait comme pour Thalès, il n'arrive pas à liquider la mort de sa mère d'un coup. Il y revient dans un récit qui va paraître bien après, en 2013, qui s'appelle « Séisme ». Et aussi, hein, comme il est par ailleurs professeur et chercheur en littérature, il consacre, il fait de l'autocritique, il fait un article en 2017 qui est consacré à son propre livre. Hein, très intéressant, il fait le critique de lui-même. Et il met en lumière ses propres intentions, les questions qu'il s'est posées. Et je pense que c'est des questions que de nombreux narrateurs ou auteurs de récits d'enfance doivent se poser au XXe siècle. J'en cite une ou deux, mais vous pouvez trouver cet article qui est paru dans A Contrario en 2017. Comment représenter le rapport d'un enfant au langage? Quelles sont les formes dont dispose un auteur pour le faire? Et sur quel matériau mémoriel prendre appui? Et plus loin. Donner à lire, donc là c'est l'intention hein, qu'il se donne, donner à lire la perception et l'interprétation de l'enfant avant qu'il intériorise la version du monde des adultes, avant que les choses soient désignées par des noms stables. Hein, ce projet-là. Donner à lire la perception de l'enfant avant qu'il intériorise la version du monde des adultes, mais c'est très rousseauiste ça. C'est exactement ce que le précepteur d'Émile veut faire avec Émile. Le préserver de la version du monde des adultes, potentiellement corruptrice. C'est complètement rousseauiste, hein, ce projet-là. Donc l'orphelin Maizot, brutalement coupé du monde de l'enfance par la mort du frère et de la mère, nourrit le désir de retrouver une sorte d'innocence perdue, hein, de réalité antérieure à ce drame et aussi antérieure à l'accès au langage, comme s'il avait appris à parler à 9 ans, d'une certaine manière. Comme s'il y avait eu un monde de paroles notamment lié au patois dont sa mère parlait quelques mots, semble-t-il, pas beaucoup plus, et qu'il a été au fond coupé d'un monde de langage qui avait une caractéristique, une chaleur particulière. Il le dit dans cette phrase, mais où est-elle donc passée, cette sensation qui flottait dans notre maison, avant même que je sache parler ? Cette sensation qui flottait dans notre maison. Et là, je retrouve, là, je généralise à partir de cette citation à plusieurs romans, récits d'enfance du XXe siècle. C'est l'un des attraits majeurs, je trouve, du récit d'enfance de cette époque, c'est qu'il s'agit très souvent de reconstituer les premières rencontres de l'enfant avec les mots qu'il entend, avec les mots qu'il lit, avec les mots qu'il ressent plus qu'il ne les comprend. Donc cette sensibilité aux voix, aux mots des adultes, essayer de reconstituer les intonations de la voix ou du parler enfantin. Beaucoup d'auteurs s'y essayent. Alice Riva s'y essaye dans L'alphabet du matin, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Nathalie Roth, bon là on est en France, avec Enfance s'y essaye aussi. Alexandre Voisard dans Le mot musique également. Hein. Cette façon, le récit d'enfance, essayer d'aller capter une zone un peu ombreuse ou cotonneuse de l'enfance que sont la conscience de l'enfant avant qu'il sache parler, au moment où il commence à parler. Hein. Tentation de transgresser la frontière de ce qu'on appelle, de ce que les neurosciences appellent l'amnésie infantile. C'est-à-dire le fait qu'on a, à partir de 3-4 ans, ou quelquefois 2 selon les individus, des souvenirs, mais qui sont des premiers souvenirs, on en a de plus en plus, mais enfin jusqu'à 6-7 ans, l'enfant a une mauvaise mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire de faits ou d'événements qu'on peut dater et situer dans le temps. C'est lié à la formation du cerveau. L'amnésie infantile, c'est une réalité anthropologique. Donc, beaucoup d'écrivains ont la tentation, en fait, de retrouver cet avant, ce moment où on sait que l'enfant a une conscience, a des sensations, a des idées. Ben, on voit bien soi-même en regardant des enfants, c'est pas des choses vides, hein. C'est au contraire plein d'intentions et de velléités. Hein. Et on se dit, mais est-ce qu'on arriverait à se projeter là ? Est-ce qu'on arriverait à retrouver cette mémoire, sachant que deux autres mémoires, hein, la mémoire sensorielle et la mémoire motrice, celle-ci, elle ne souffre pas d'amnésie. Il n'y a pas d'amnésie infantile pour la mémoire sensorielle et la mémoire motrice. On les garde, c'est que la mémoire épisodique qui est marquée par l'amnésie. Donc, il y a chez Mezzo cette tentation. Il devait y avoir une sensation dans la maison avant que je sache parler. Mais il n'est pas le seul. Et je trouve assez touchant, au fond, cette volonté de vouloir se plonger dans une enfance qui, au fond, nous résiste, fondamentalement. Je passe maintenant à un auteur qui n'est pas orphelin de mère. J'ai envie de dire c'est tout comme, c'est un peu vite dit. C'est Adrien Pasquali, qui propose, quant à lui, dans Le pain de silence, l'expérience terrible d'un enfant qui n'a jamais connu précisément cet état de l'infance, hein, de l'enfant qui ne parle pas encore. Parce que la parole, elle ne lui a pas été donnée. Il a dû la prendre tout seul parce que confronté de manière radicale au silence des adultes et en particulier de ses parents, immigrés italiens, travailleurs italiens. Donc Adrien Pasquali, lui, est né à Bagne en Valais en 1958 et il a mis fin à ses jours en 1999, quelques mois après la sortie de Pain de silence, qui était de loin son récit le plus nettement autobiographique. Alors, encore une fois, Pasquali n'est pas orphelin de mère, mais il lui a manqué une nourriture essentielle qui est la parole échangée, hein, le bain de voix et de parole de l'enfance. Il n'a pas eu ça. Il a eu à la place, sur la table familiale et l'image qui orne la couverture du livre, si vous le voyez tout à l'heure, est assez illustrative. On voit un pain debout sur la table, la table à manger. Et ce pain, c'est une espèce de... Il bouge tout, en quelque sorte. Hein. C'est un pain de silence, parce que personne ne parlait autour de cette table. Et vous allez entendre tout à l'heure un extrait de ce testament, de fait, hein, l'auteur est mort quelques mois après, le relisant, ça m'a frappé. Il était publié en 1999, c'est un texte rude, c'est un texte éprouvant, je me réjouis d'entendre la lecture qui en sera faite, c'est un texte sans ponctuation, fait de deux coulées de texte, il y a des virgules, mais il n'y a aucun point, et qui relève, m'a-t-il semblé, de ce qu'on nomme aujourd'hui, depuis quelques années, l'écriture autobiographique de l'extrême ou de l'indicible ou du trauma. Hein, on sait que depuis quelques années, une dizaine d'années à peu près, ou 15 à peu près, des textes autobiographiques qui disent les traumas, ça peut être inceste, viol, autres traumatismes subis dans l'enfance, ils sont légion. On peut penser à Annie Ernaux, à Christine Angot, à Hervé Guibert, Édouard Louis, Camille Kouchner, Constance Debré, etc. Bon, là, j'ai cité que des Français, mais c'est vraiment un genre qui se développe, hein, l'écriture autobiographique de l'indicible. Hein. Eh bien, le pain de silence de Pasquali, à mon sens, c'en était un. Il n'a pas été reconnu comme tel, parce que finalement, il y en avait peu, mais c'est vraiment ça, c'est une épreuve... Oui, totalement traumatisante, pour laquelle il a trouvé une forme absolument extraordinaire, éprouvante pour le lecteur, mais remarquable. Alors là, pour faire contraste avec ces récits d'auteurs, disons, de fils de la mère, hein, héritier de Rousseau d'une certaine manière, il y a d'autres récits d'enfance en Suisse romande qui appartiennent pas du tout à la veine rousseauiste et qui sont plutôt des récits où va dominer, ou disons qui sont polarisés par la figure du père. Alors ça peut être Le Préau de Georges Bourgeot, c'est un roman autobiographique, on a su après coup qu'il était complètement autobiographique, mais il l'est. Le Chêne brûlé de Gaston Cherpillot, Le mot musique d'Alexandre Voisard, hein, qui est paru, il l'a écrit après la mort de son propre père, donc c'est assez tard, en 2004. Ou encore celui sur lequel je vais dire quelques mots, c'est L'alphabet du matin d'Alice Riva, qui est représentatif du récit d'enfance qui n'a pas cette couleur mélancolique et sensible des rêveurs que sont les fils de la mère rousseauiste, mais qui est au contraire tonique et prospectif, hein, plutôt que régressif et mélancolique. Et vous entendrez tout à l'heure un bref chapitre de ce livre qui s'appelle « Avoir 4 ans », hein, où la narratrice évoque l'exaltation et l'orgueil éprouvé par la petite fille conquérant la première personne du singulier. Hein. Elle dit, dans un échange avec une dame qu'elle rencontre, alors qu'elle est en compagnie de sa mère, elle découvre le « moi », l'audace de dire « je », en quelque sorte. Hein. Elle a la maîtrise du « je », la maîtrise du « moi » et la maîtrise des chiffres. Elle arrive à dire « j'ai 4 ans » en quelque sorte. Et je compare cette expérience qu'Alice Riva, la narratrice d'Alice Riva, a fait à 4 ans à une scène semblable qui est racontée par un auteur français cette fois, qui est Julien Green, auteur américain mais écrivant en français, dans son récit d'enfance qui s'appelle « Partir avant le jour ». Et lui décrit la même expérience, hein, de la conquête du « je », comme, je cite, « l'heure mélancolique où la première personne du singulier fait son entrée dans la vie humaine pour tenir jalousement le devant de la scène jusqu'au dernier soupir. Voilà. » Green, il éprouve, hein, l'accès au « je » comme quelque chose de parfaitement mélancolique. Hein. La petite Alice Riva, elle trouve ça tonique et exaltant. Parce que, d'une certaine manière, c'est lié au fait que son pôle de référence, encore une fois, ce n'est pas une mère douce et morte, parce que de fait, sa mère n'est pas morte, mais c'est plutôt un père extrêmement présent. Et elle s'imagine, en effet, comme une petite battante, avide d'accéder à la liberté et de se tirer de l'enfance, d'une certaine manière, comme le disait Saint-Simon, mais pour accéder à quelque chose qui lui soit propre. Alors, J'ai commencé en opposant, hein, en référence au livre de Jean-Pierre Valensland, le désintérêt pour l'enfance qui prévaut à l'âge classique, et jusqu'à Rousseau, et à l'attention extrême, hein, que l'enfance suscite de la fin du XIXe siècle à nos jours. Hein. Sous l'Ancien Régime, il faut tout faire pour se tirer de l'enfance. À partir de Rousseau, il faut tout faire pour se plonger dans l'enfance. Hein, attitude assez radicalement différente. Un siècle et demi environ après la naissance du récit d'enfance, hein, je vous l'ai dit, environ 1880, le genre reste très vivant, hein, il ne cesse d'évoluer, et parallèlement, nos sociétés sont devenues de plus en plus sensibles à toutes les vulnérabilités de l'enfant, dont la littérature se fait encore une fois de plus en plus richement l'écho. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaye une petite hypothèse, mais enfin je vous la soumets plutôt que je ne vous l'impose. Il me semble que l'enfance joue le rôle de miroir grossissant pour nos sociétés inquiètes et présentistes, qui peinent à imaginer un avenir. L'enfant, il ne va pas pouvoir être dans nos sociétés, il ne l'est en effet pas du tout dans les récits d'enfance dont j'ai parlé, une figure historique, un acteur de l'histoire. Il est un petit enfant auquel on s'intéresse en tant que tel, parce qu'il est enfant avec toutes ses compétences et ses singularités. Alors, encore une fois, j'avais parlé de la simultanéité de la naissance du récit d'enfance et des sciences de la pédiatrie, de la psychologie, du développement, etc. Ces sciences ont apporté un savoir exceptionnel, qu'il soit théorique, clinique et pratique, au cours du XXe siècle, quant aux compétences du bébé, de l'enfant et de l'adolescent. C'est incontestable, il y a des progrès considérables qui ont été faits, mais parallèlement, nos sociétés ont développé la tentation de placer l'enfant sous cloche, hein, de le surprotéger, comme on dit souvent. Alors, est-ce que ce souci de préserver l'enfant est dû au fait que nos sociétés ne savent pas la place, quelle place lui accorder, hein, c'est probable, ou quelle place lui accorder précisément parce que l'avenir, notre avenir, est lourd de menaces. Donc, on préfère ne pas lui accorder de place plutôt que d'essayer de lui en imposer une. Pourtant, à cette hypothèse, je verrais un démenti dans la mesure où il y a une personne qui, au début du XXe siècle, a joué le rôle de sujet historique. Vous pensez peut-être à la même personne que moi, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, mais qui, à l'heure de ses premières actions publiques, était quasiment une enfant, 12-13 ans, c'est Greta Thunberg. Greta Thunberg, elle a clamé le droit de sa génération à un futur vivable sur Terre, encore une fois alors qu'elle avait 12-13 ans, et en cela, elle fait d'une certaine manière écho à ces enfants des 16e et 17e siècles qui étaient des sujets porteurs d'espérances collectives nouvelles. Elle a joué ce rôle, on peut penser d'elle ce qu'on veut, du fait qu'elle est l'icône d'un mouvement fortement médiatisé qu'elle n'a peut-être pas contrôlé, etc. Toujours est-il qu'elle est assurément un sujet historique. Et comme porte-parole d'un projet de changement radical pour la société, elle a eu assurément une action directe sur le monde grâce, et ça je trouve cela intéressant, grâce à un double plaidoyer. Plaidoyer pour le climat, mais aussi plaidoyer pour la neurodiversité, puisqu'elle présente, comme vous le savez, le syndrome d'Asperger. Donc je trouve qu'à ce double titre, elle est représentative, en quelque sorte, d'un sujet enfant tel qu'on le voit comme porteur, en tout cas d'un sens de l'histoire à notre époque. Mais tout cela reste à titre d'hypothèse que je vous retourne. Je vous remercie.
Bonsoir. Quatre extraits. Guy de Pourtalès, marin d'eau douce. Ce fut l'année de la grosse bise. Elle se leva un après-midi d'automne. Dès la première nuit, il y eut une rude chanson dans les cheminées. Monsieur Florent avait peur qu'elles ne tombassent, mais il faut croire qu'elles étaient solides. Le second jour, la plupart des feuilles jonchaient la terre avec des branches mortes et même de petits morceaux encore verts. Le vent les amoncelait en certains endroits plus abrités, en faisait des tas, puis les soulevait de nouveau, les éparpillait et finissait par balayer le tout jusqu'au bois. Là s'étendait comme un immense tapis, bien épais, dans lequel on enfonçait et tout doit pourrir comme il faut et nourrir la bonne terre humide. Je les respirais à plein poumon, ces riches odeurs forestières, parce qu'elles contiennent, elles aussi, une part de cette vérité profonde qui est dans les choses. On devient très humble en face d'elles. Mille petits tracas ou ennuis s'effacent, sont, pour ainsi dire, nettoyés, emportés hors de nous-mêmes. On se sent plus libre, plus net, plus intelligent. Peut-être qu'une partie de ces forces éparses entre en nous et y vivifie ce qu'il y a de meilleur. N'est-ce pas sous les arbres, en automne, que les grands, comme je les appelais, ont trouvé à s'exprimer, ont réussi à s'élever au-dessus des hommes? Plus probablement, je veux le croire, qu'entre les murs d'une chambre où l'esprit est emprisonné. Il faut l'espace et, de plus, l'harmonie qui est dans la nature comme une loi, avec ses rythmes, ses fragments de mélodie, ses accords innombrables. On écoute, et selon notre cœur, il nous est donné d'entendre et d'aimer. Dans ce vent qui me cinglait de son froid, je voyais maintenant plus juste et plus loin. Une inquiétude me venait, une vue mieux définie de ce que seraient mes entreprises futures. Je prévoyais obscurément les luttes et les déceptions, et qu'il faudrait tenir bon quand même, et qu'il faudrait vouloir avec acharnement et créer ma foi, et marcher vers ma nouvelle espérance sans regarder derrière moi, sans jamais retourner à tout ce dont je me détachais lentement. Il y aurait sans doute, pour me dissuader, grand-père, grand-mère, Monsieur Florent, et toutes les bonnes raisons, les devoirs, les traditions, les habitudes. Mais au-delà de ce premier cercle, se tenait l'oncle Paul, et je voyais son visage me sourire. Il m'appelait pour que je vinsse à lui et à ceux qui l'entouraient. Cela avait comme lui cet air bon et simple et un peu grave, mais surtout, il émanait d'eux une force, une assurance tranquille, une foi immuable. Et c'était la nourriture dont j'avais besoin. Il n'y avait pas que la musique. L'art est une vérité qui traverse le monde. Et il y en a en tout et pour tous. Quand on veut bien regarder, chez l'opulent et chez le pauvre, dans une peinture et dans une sonate, dans une fleur et dans une dentelle, dans un morceau de bois sculpté. Comme il y a les génies, il y a aussi les humbles, ceux qui peignent une assiette, ceux qui fabriquent une montre, ceux qui sèment le grain dans les champs. Toute chose est belle quand elle est accomplie dans l'enthousiasme et avec la foi. Voici des pensées qui, lentement, se faisaient jour en moi. D'abord, elles étaient plus mêlées, plus morcelées, parce que le difficile n'est pas de les avoir, mais de les grouper, de les arranger, d'en faire jaillir une clarté. Si confuses qu'elles paraissent, cette lumière n'en éclaira pas moins la première étape de ma route. S'il m'en souvient aujourd'hui, c'est qu'elle remonte précisément à l'époque de cette bise d'automne. Dès le troisième jour, un gros ormeau tomba. Nous nous penchions sur son tronc énorme, couché en travers d'une allée comme le cadavre d'un paysan. Le jardinier scia les plus grosses branches et trancha les petites avec sa hache. L'ormeau s'étant cassé à 2 mètres de terre, une sorte de colonne tronquée restait debout sur laquelle nous grimpions, mon frère et moi. Grand-père nous photographia. Cette mort d'un arbre le laissait indifférent, parce qu'il n'aimait pas à s'apitoyer sur des bêtises. Mais grand-mère en eut un vrai chagrin. Elle venait le regarder 10 fois par jour et cueillit l'une de ses feuilles qu'elle mit dans son psautier, comme c'eût été un souvenir donné par quelqu'un. Son mari haussait les épaules. « La belle affaire ! Ne faut-il pas que les vieux arbres disparaissent, comme les vieilles personnes ? Place aux jeunes ! Les gamins planteront de nouvelles pousses quand toutes ces carcasses seront par terre. » Grand-père montrait toujours l'avenir. Il croyait à la chimie, à la physique, un futur construit sur des données scientifiques et offrant à l'humanité mieux instruite de plus sûrs gages de bonheur. Extrait de Jérôme Maizot, Mort ou vif. Voilà, c'était Guy de Portales, marin d'eau douce. Cercueil de fer et d'eau. Nuit d'avril 1974. L'enfant ne parvient pas à dormir. Une curiosité, la soif peut-être, le pousse en bas du lit, il descend l'escalier. Dehors, les chats hurlent comme des bébés oubliés. Des lueurs, sur fond d'encre noire, vibrent dans la maison. Je ne les connais que trop pour les avoir vus le soir même. 4 bougies, elles se consument lentement autour d'un coffre de sapin. Un coffre ouvert, des marches de l'escalier, je peux voir le corps, chape de plastique ou de cire décolorée, dans un costume bleu roi, serré. L'odeur des fleurs par dizaines autour de la boîte, l'odeur des fleurs mêlée à celle des bougies, l'odeur pour moi désormais de la mort silencieuse qui, ce jour-là, a fait place nette, gagnée sur notre terrain. Tante, sœur, oncle muet, voisins aux yeux rougis ont veillé. Le téléphone ne cesse de sonner. Avant de partir pour cette soirée, le lever de soleil sur le Cervin, quelle idée de Soulard, Jean P. m'avait parlé, assis sur le tabouret noir. Une caresse après s'être rasé, et le voilà qui file rejoindre ses amis. Quelques jours après que la boîte eut quitté la maison, et avec elle emporté des effluves de fleurs et d'encens, ma mère a soigneusement lavé les vêtements que Jean P. portait, les a pliés comme une bonne ménagère et les a rangés dans l'armoire de son fils. Des années plus tard, quand cette armoire, comme la chambre de mon frère mort, par une étrange passation de témoins, fut devenue mienne, la chemise rayée, déchirée et marquée encore de sang violet, le pantalon brun faux velours, lacéré lui aussi, dormait toujours là. Ma mère ne s'est jamais résolue, sans doute, à accepter cette absence. Elle l'a comblée comme elle a pu. Bien des années plus tard, je cherchais toujours des yeux. Lorsque nous passions devant le cimetière à voiture, au pied du mont, la carcasse blanchâtre de la coccinelle dont on m'avait parlé. L'été dernier, dans cette maison rose, ce paquebot arrêté où je vivais, à Lausanne, j'ai fait un rêve singulier. La scène était celle du jour où nous avons appris l'accident de Jean P. Nous mangeons à la cuisine. Soudain, la sonnerie du téléphone. Et pour des années, pour ma vie peut-être, je ne peux plus entendre cette stridence sans un effroi dissimulé. Le visage étonné de mon père, et nous voilà tous les six pleurant dans le salon. Une seconde, et ce que l'on disait être le bonheur s'effondre. J'entends les cris de ma mère. À cet instant, le rêve fait son travail. Du salon où nous sommes, c'est un terrible vrombissement, comme le bruit d'un insecte mille fois amplifié, ou peut-être comme la sonnerie d'un téléphone au ralenti. Un hélicoptère noir, qui a tous les traits caparaçonnés d'un crustacé ou d'un insecte à armure, une espèce d'énorme scarabée noir à hélice, tourne autour de notre maison. Le temps s'est arrêté. Plus un oiseau ne chante dans cette vallée du Rhône en première fleur. Il n'y a soudain plus que ce vacarme assourdi et frappant comme le sang dans mes tempes. De ses pales, l'hélicoléoptère frôle les murs. Peu à peu les frappe et les déchire. La maison tremble, il y pénètre presque. Tous nous crions d'effroi, c'est la mort à nos portes qui donne son bal ailé. Au matin, le lac est plat comme une tôle. Je m'étire sur le balcon, en plein soleil, bien vivant. Le rêve m'a traversé. 20 ans exactement après ce dimanche d'avril. Extrait de Le pain de silence d'Adrien Pasquali. Sans doute n'as-tu jamais été un enfant. Sans doute n'as-tu jamais été un enfant, dit ma mère, sans remuer les lèvres, sans prononcer une syllabe ni un mot, avec ses yeux tristes, en veilleuse que je lui ai toujours vue, comme si elle avait en permanence tiré le rideau sur sa vie, comme si elle avait bien pu être là face à moi avec son corps et sans pouvoir exprimer ce qui l'habitait. Nulle syllabe, aucun mot, depuis tant de temps. Parlez plus doucement. Que ma mère était alitée, qu'il ne fallait pas la réveiller de son sommeil ou de son retranchement, et quand elle se levait, qu'elle titubait, qu'elle se laissait tomber sur une chaise de la cuisine ou du séjour, les fauteuils sont venus plus tard, elle était devenue le morceau de silence, abattue sur une chaise de la cuisine ou du séjour, avant que d'avoir chu sur la table, qu'elle se laissait tomber sur une chaise et qu'il émanait d'elle une désolation muette, un amollissement du corps, qui était sa seule façon de dire quelque chose, sans prononcer une syllabe, ni un mot, et il semblait qu'elle aussi se rangeait du côté du silence, quand soudain, elle pouvait déclencher un court jet de mots, une brève éruption à propos des cigarettes fumées par mon père, ou sa maladie à elle, tiens, pour laquelle elle réclamait une attention absolue, une compréhension sans faille, ne pas la prendre à la légère, et s'il n'en avait tenu qu'à elle, il est certain que quoi ? Je ne l'ai jamais su. La cigarette, la maladie, ou le voisinage de l'immeuble ? Parlez plus doucement, dont il ne fallait pas éveiller l'attention, duquel il ne fallait pas être entendu ni vu, rien de plus facile pour mon père. Parti aux aurores, rentré aux nuits noires, à d'autres les blanches et dimanche compris, et si ce ronflement était entendu, on n'a jamais su, on n'en a jamais fait grief à ma mère, il est certain, la pauvre, qu'elle n'y pouvait rien. Facile pour mon père, impossible pour ma mère qui ramassait tout, jour après jour, avalait tout. Insinuation, calomnie, couleuvre, dénonciation, poulpe, délire indigène comme « on n'est pas à Naples ici !» parce qu'elle avait mis sur le rebord d'une fenêtre son chiffon asséché, ou « c'est votre fils qui fait un tel boucan dans les escaliers avec ses chaussures de ski ?» qui n'était pas une question, mais une accusation. Et le fils en question, ne possédant ni ski, ni chaussures de ski, à moins que les unes sans les autres, je l'ai souvent regretté, mais je pouvais d'autant moins faire du boucan dans l'escalier, j'aurais bien voulu, histoire de me faire entendre ce quelqu'un, mais... La mesquinerie, la méchanceté, le poison des voisins de palier, c'était quelque chose à quoi ma mère ne pouvait donner libre cours, à quoi elle ne pouvait répondre, dont elle ne pouvait discuter avec mon père, proverbial et caricatural. Parlez plus doucement, Elle essayait parfois, à sa façon muette ou éclatante, elle avait dû essayer, par petites allusions, son prétention, comme quelqu'un dirait que la concierge est sortie à 5 heures, rien de plus, rien de moins, une constatation. Elle avait dû essayer, sans résultat, sans trouver chez mon père une oreille attentive, ou même deux, un souci d'apaiser ses craintes, de soulager le harcèlement vipérin dont elle était l'objet, le poison, la langue des voisins de palier. C'est quelque chose. Elle avait dû renoncer, sans doute, tout avaler. Et si la conversation ordinaire lui était interdite, elle allait continuer à être bien malade, le plus souvent alitée. On allait entendre ce qu'on allait entendre, sourdement, de brefs sursauts, des explosions velléitaires qui immanquablement s'attiraient « Parlez plus doucement ». Peut-être n'avait-elle rien à ajouter à cette tornade fugitive au milieu du calme plat. Il n'y avait pas de verre d'eau, seulement un verre de vin rempli à mesure qu'il était vidé, si bien qu'on ne savait pas s'il était vide ou plein ou simplement à moitié. Ce qui était sûr, c'est qu'il ne débordait jamais. Ce n'était pas comme le vase. Peut-être en avait-elle assez dit, trop dit. Peut-être même attendait-elle la réplique, cette réplique de mon père, clore la discussion ou l'ouvrir pour n'être pas entendu des voisins de palier, des autres. Au-delà du palier, le village, le monde. Pourquoi pas ? Si j'écris ici et maintenant, ce n'est pas comme je le croyais pour exprimer le silence, mais pour couvrir les autres voies surprenantes du hasard, palier ou commissariat. Sans doute n'as-tu jamais été un enfant. Je tiens à ce silence malgré tout. Grâce à tout. Ce silence qui est la seule chose que nous avons eue en commun, avec les risques que cela comportait. Alors, pourquoi le dilapider étymologiquement, le surmonter et le rendre inopérant ? Plutôt faire avec lui ce silence et lui être dévoué. Ça oui. Alors le jour sera venu où, sans plus rien à broder ni à fumer, sans plus rien à parler, je serai tout à fait né. Le dernier extrait d'Alice Riva et du récit L'alphabet du matin. Avoir 4 ans. Dès mon réveil, j'apercevais par la fente des volets mi-clos le miroitement vert et doré des feuillages qui ombrageaient la propriété des grands chais. Séparé de notre jardin par un étroit passage reliant aussi notre rue à celle de la gare. Pour gagner du temps, maman l'empruntait volontiers et je m'y faufilais à sa suite entre les murs et les haies qui le bordaient et le transformais en un petit canal creusé dans la verdure, plein de fraîcheur et de mystère, où l'on ne pouvait avancer qu'à la queue leu-leu. J'exultais toujours de m'y sentir seul avec elle, comme à la maison. Quoique jeté dans le vaste monde, à la merci d'une rencontre ou d'un événement imprévisible. Je courais en avant ou restais en arrière, m'appliquant avec une angoisse délicieuse à mettre une distance de plus en plus grande entre elle et moi, sans jamais la perdre de vue, si sûr qu'en ce chemin resserré, elle ne m'échapperait pas. L'ivresse d'une indépendance sans risque donnait des ailes à mes chevilles. Mais que survint quelqu'un, je revenais, ventre à terre, le cœur battant, vers mon étoile fixe, vers ma boussole, me faufilant entre le mur et la jupe protectrice pour mieux être séparé de l'importun qui s'apprêtait à nous croiser et à violer notre univers. Un jour, et je pourrais marquer d'un trait à la craie l'endroit précis foulé par mes petites sandales au moment de cette curieuse prise de conscience enfantine, une dame s'était arrêtée en nous croisant. Puis avait demandé mon âge. Alors, sortant inexplicablement de ma réserve, ébloui par les mots qui fulguraient dans mon esprit et se précipitaient sur mes lèvres. 4 ans, m'étais-je hâté de claironner, tandis qu'en articulant ce nombre premier qui enfermait, précisait et par là même authentifiait pour une personne inconnue non seulement la durée pour moi déjà combien longue de mon existence, et dont j'avais le sentiment confus qu'elle se perdait dans la nuit des temps, mais mon existence elle-même. Je me sentis hissé, hors de l'endroit, sentier jusque sur une cime, d'où je découvrais brusquement une vérité dont le merveilleux, et l'importance m'avait échappé jusqu'ici. J'avais 4 ans et j'étais moi. Une insensée bouffée d'orgueil me monta au cerveau. Je me dressai sur la pointe des pieds pour paraître plus grande encore. Puis, la nuque raide, le menton levé, les dents serrées, j'aspirais de toute la force de mes poumons une grande portion d'air que lentement, comme si je savourais à travers elle ma découverte, je filtrais entre mes dents, produisant ainsi une sorte de sifflement assourdi par quoi s'exprimait ma jubilation et que je prolongeais tant que je pus. Longtemps après cette rencontre, mon cœur battait encore d'une émotion inconnue, à la fois forte et douce. J'ai 4 ans. Ne cessais-je de me répéter tout bas, délaissant poupées et jeux, tant il me suffisait maintenant de me plaire à exister, à avoir 4 ans, à être moi. Merci pour votre attention.
Merci Jonathan, magnifique lecture, vraiment c'est un tel privilège d'entendre ces extraits si bien lus après une mise en perspective autant passionnante. Merci encore Maud pour la riche idée d'avoir commandité cette recherche inédite. On a un petit moment pour les réactions, questions, réponses. Alors je me tourne vers le public.
J'ai une question. Vous parliez de psychanalyse, de retour sur l'enfance, et je me disais, est-ce qu'il y a en fait chez ces écrivains, au-delà de l'envie de parler d'enfance, l'envie de se dire, en fait, enfin, de chercher pourquoi je suis écrivain aujourd'hui, et si finalement c'était pas la question qui ouais, qui les taraudait finalement tous, et que c'était la question première, en fait, voilà, d'où ça vient ? Est-ce que ça vient de l'enfance ?
Alors, depuis Proust, bien sûr, tout le monde se pose la question, mais Proust l'a tellement bien dit que beaucoup essayent de détourner en tout cas le problème. Mais par exemple, Découverte du monde de Ramu, c'est clairement un roman de la vocation. Il s'interroge sur son enfance et il déroule les petites expériences de son enfance uniquement dans l'idée de se dire mais où est-ce que ma vocation a pu naître ? Ça, c'est tout à fait clair. Mais c'est chez d'autres, pas du tout. Chez d'autres, pas du tout. Ou alors c'est implicite, ou on ne veut pas aborder ce sujet qui est quand même tellement, tellement proustien, qui est l'histoire d'une vocation, quoi. Mais je crois qu'il y a vraiment d'autres motivations que celle-ci. Mais merci, votre question est vraiment pertinente. Mais il y a beaucoup d'implicites dans les récits d'enfance, hein, précisément parce que c'est un genre tellement piégeant, enfin, tellement impossible au fond, hein, parce que beaucoup plus qu'une autobiographie d'adulte où à partir du moment où 10-12 ans on a des souvenirs, on a souvent des traces aussi sous forme de carnet, etc., de sa propre vie, pour l'enfance c'est flottant, c'est un étang incertain, pour certains traumatisant, hein. Mais aussi fascinant, hein, pour Jérôme Maisot, ben, y a quand même ce double traumatisme des deux morts, hein, frère et mère, mais il y a aussi une fascination pour ce qu'a pu être ce monde tellement différent du monde corseté de la vie adulte, de la vie professionnelle, qu'il en garde un désir de s'en approcher au plus près. Et dans l'article dont je vous ai parlé, vraiment il essaie, il se dit mais c'est ça que j'aimerais faire vraiment. Donc, les motivations sont vraiment diverses.
Autre question ?
Merci pour cette belle conférence. Pas par rapport aux hypothèses pour expliquer cet intérêt de plus en plus massif pour le récit d'enfance. Alors, tu as parlé du présentisme comme une hypothèse qu'on peut formuler. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi un lien avec un peu l'assèchement de la fiction dans la littérature d'aujourd'hui, et puis le territoire de l'enfance, avec toute son incertitude, ce côté brumeux aussi dont il a été question, c'est un territoire qui peut s'explorer finalement de façon absolument infinie, puis qui peut être donc qui est aussi le support du travail de l'imagination finalement. Donc est-ce que c'est une hypothèse qu'on pourrait formuler, un lien entre assèchement de la fiction et puis valorisation du récit de l'enfance?
Oui, sauf que j'ai envie de te retourner la question, parce que assèchement de la fiction, moi je vois pas ça. Je trouve pas que la fiction est asséchée. On l'a beaucoup dit dans les années 2000. Il y a eu des masses de livres, fin de la littérature, fin de la fiction, etc. Mais il n'y a rien à voir, circuler. Il y a de la fiction. La fiction est même française. On a souvent dit, oui, la littérature américaine prend les... Mais ce n'est pas vrai. Il y a une extraordinaire fiction en France. Mathias Sénard, ce n'est pas de la fiction, peut-être. Et combien riche. Enfin, j'entends. Non, moi, j'arrive pas à, enfin, je sais pas. Tu penses à quelque chose en particulier? Ou tu penses à l'affaiblissement quand tu dis assèchement? Parce que...
Non, mais je pense, même bien sûr qu'il n'y a pas une disparition de la fiction, mais je pense à des auteurs comme Modiano, par exemple. Bien sûr qu'on est dans un univers extraordinairement fictionnel, mais en même temps qui est complètement adossé à cette exploration obsessionnelle, obsédante de l'enfance. Oui. Donc c'est ça que je disais, il y a peut-être un lien avec l'enfance comme un territoire sur lequel bâtir de la fiction. C'est peut-être plutôt comme ça qu'il faudrait l'exprimer.
D'accord, oui. Voilà, parce que disons, l'idée en général, l'assèchement de la fiction, là, je ne peux pas te rejoindre. Donc, je n'arrive pas à en faire un point de départ pour interroger notre société contemporaine en lien avec les récits d'enfance, parce que je ne trouve pas que la fiction s'assèche. Mais alors, ce que tu dis là, oui, c'est-à-dire que, en effet... que des auteurs s'adossent et reviennent à leur enfance pour tourner autour, en effet. Et puis, oui, alors comme je le disais, pour s'y reprendre à plusieurs fois pour la dire et donc faire des détours, oui, ça c'est possible. Ou bien, bon, le cas quand même extraordinaire de Vie minuscule de Michon, qui est une autobiographie, bon, il ne parle pas que de son enfance, mais quand même beaucoup de son enfance et de sa jeunesse, et comme il ne veut pas parler face au miroir, en quelque sorte, hein, dire « je », eh bien, il utilise des personnes qu'il a rencontrées pour, en quelque sorte, se projeter à travers des gens rencontrés ou se décaler par rapport à d'autres. Alors là, oui, il y a peut-être en effet ce jeu, au fond, d'usage du matériau autobiographique comme appui, comme matériau qui soutient la voie vers la fiction. Oui, ça c'est possible. Mais en tout cas, merci pour la question.
Autre question, réaction?
Est-ce que la création dans les années 80 en France de l'école obligatoire publique et laïque est à mettre en relation avec l'intérêt qu'on porte à l'enfance à la suite de Rousseau, ou au contraire, au manque d'intérêt pour l'enfance avant Rousseau?
Donc tu veux dire l'école publique à partir de la Troisième République
et tout ça?
Ouais, ouais. Ouais, difficile. oui, ça serait une piste. Ça serait une piste, oui. Oui, parce que la création de l'école publique, ça veut dire un intérêt marqué pour l'enfant, pour l'éducation de l'enfant de manière générale. Donc, incitation à de futurs auteurs de se penser. C'est vrai, c'est une hypothèse intéressante. De toute façon, l'hypothèse aussi de la coprésence du récit, de la naissance du récit d'enfance et puis des sciences de l'éducation, etc.,
je peux pas la documenter. Je la dis parce que voilà, parce que c'est concomitant. Pour la psychanalyse, ça joue. Ça, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais autrement, c'est juste un parallélisme. Hein. Donc merci. Celui que tu évoques est intéressant. Ouais.
Merci.
Mériterait une étude par des historiens.
Merci. Autre question, réaction, on a encore un petit peu de temps. Moi, j'avais une petite question parce que je viens de lire. Vous avez lu La Chambre Noire de Bernadette Richard, paru aux éditions Fabre.
Ah, j'ai pas lu ça.
C'est dans les médias et tout parce que du coup, ça prend une autre. C'est clair et différemment parce que ce type, vous avez dit qu'il y a cette sorte de floraison de récits d'enfance qui disent le trauma, et puis c'est une écrivaine chaudefonnière. Peut-être des gens ici ont lu qui racontent. Ouais. Je ne sais pas si ça. Vous aviez lu ça?
Non, mais ça. Parce
qu'il y en a partout.
Je suis contente de voir qu'en Suisse romande aussi, c'est vrai que le récit de l'extrême, de ce qu'on appelle l'indicible, du trauma, c'est extrêmement important actuellement. À mettre en lien avec, avec des choses qui de fait étaient tabouisées par la société, du genre la parole sur le viol, la parole sur l'inceste, etc. Mm-hmm. Donc le fait qu'il y ait des récits qui sortent à partir de là, c'est tout à fait compréhensible.
Mm-hmm. Alors, dernière occasion de poser une question avant d'aller boire un verre autour du bar ou feuilleter. Je tourne, c'est bon. Alors, vous avez la chance d'avoir, vous pouvez prolonger en allant voir le petit stand de la librairie. Tous les livres cités ce soir sont présents, je crois. Merci encore infiniment, Claire. C'était vraiment très riche comme exposé. Merci encore aux partenaires. Et merci de votre présence. Et restez pour boire un petit verre. Et belle fin de soirée.